France Culture.
Talmudique. Henri Atlan, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine dans Talmudique pour poursuivre notre conversation autour de votre livre intitulé « Pour un athéisme éclairé, l'hypothèse inutile » avec le sous-titre « Des lumières au monde hébraïque ». Je rappelle que vous êtes né en 1931 à Blida en Algérie. Vous êtes médecin et, entre autres, ancien chef de service à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris, fondateur et ancien directeur du Centre de recherche en biologie humaine de l'hôpital universitaire Hadassah à Jérusalem, professeur émérite de biophysique et directeur d'études en philosophie de la biologie à l'EHESS. Vous êtes considéré comme l'un des représentants importants de l'école de pensée juive de Paris et vos recherches, tant scientifiques que celles menées dans le domaine hébraïque, vous ont assuré un renom international. Nous avons vu la semaine dernière le sens de l'athéisme éclairé et de l'hypothèse inutile, mais nous avons laissé sous silence le sous-titre de votre ouvrage « Des lumières au monde hébraïque ». De quelle lumière s'agit-il et de quel monde hébraïque, Henri Atlan ?
Les lumières, celles qui se sont exprimées dans un certain nombre d'auteurs au XVIIe et au XVIIIe siècle essentiellement, mais qui sont à l'origine quand même du développement des sciences modernes. C'est-à-dire c'est à ce moment-là, par exemple, que l'alchimie a été remplacée par la chimie, que l'astrologie a commencé à être très sérieusement remplacée par l'astronomie, qui est elle-même devenue mathématique. Autrement dit, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été vraiment la naissance de la science moderne.
Mais on les appelle les Lumières pour quelle raison ? Par rapport à quelle obscurité ?
Ah oui, en effet, les Lumières, en comparaison avec les obscurités, si l'on peut dire, du Moyen-Âge, où la connaissance humaine était réduite pour une large part à des discussions d'origine théologique essentiellement, et qui était réservé dans la plupart des cas à ce qui se passait dans les cloîtres, et aussi à ce qui a été enseigné dans le commencement des universités. Mais les universités elles-mêmes étaient évidemment toutes très imprégnées de christianisme.
Puisqu'on passe des lumières au monde hébraïque, de quel monde hébraïque s'agit-il ?
Le monde hébraïque, justement, c'est le monde d'ailleurs qui ne s'est exprimé à l'origine qu'en hébreu ou en araméen, qui était la langue par laquelle les communautés juives dispersées, et puis après, renouvelées un petit peu par la renaissance, en quelque sorte, d'une souveraineté juive sur une terre qui était la terre d'Israël. Le monde hébraïque, si vous voulez, c'est ce monde qui s'est exprimé en hébreu et en araméen, essentiellement, et qui est à l'origine du judaïsme actuel, qui a subi, si j'ose dire, la forme d'acculturation qui a accompagné l'assimilation et la nécessité de traduire en français ou dans les langues occidentales, en anglais, en allemand, etc., tout ce qui normalement était écrit avec la pensée qui était exprimée en hébreu et en araméen. Et dans ce phénomène de traduction, tout un tas de problèmes, justement, dans les modifications, dans les mauvaises compréhensions, etc.
Alors, on va y venir, mais si j'ai bien compris, c'est le fait que les Lumières sont un moment où Dieu devient en Occident une hypothèse inutile qui va se confronter avec le judaïsme. Et qu'est-ce qui se passe dans le judaïsme justement par rapport à cette hypothèse inutile qui n'était pas inutile puisqu'elle n'était pas hypothèse, donc elle était complètement absente.
Exactement, c'est ce qui se passe à ce moment-là où le judaïsme, normalement, à condition d'être exprimé dans son langage qui était l'hébreu ou l'araméen, comme vous le dites, ne se pose pas la question de l'hypothèse inutile. Mais à partir du moment où on traduit, tout naturellement, on tombe sur cette hypothèse inutile.
Dans vos travaux, vous parlez beaucoup de mythes. On peut noter d'ailleurs que le sous-titre de votre ouvrage, « À tort et à raison », est « Intercritique de la science et du mythe ». Le sens que vous donnez à ce terme est positif. Ce sont des récits construits, situés historiquement, qui ne décrivent pas scientifiquement le réel. Ce sont des récits que l'on peut lire comme des symboles, des scénarios de situations humaines différentes, des outils éthiques et politiques qui nous aide à penser la loi, la justice, la responsabilité, la communauté. Vous dites, dans « Entre le cristal et la fumée », que les mythes bibliques, je vous cite, « sont la matière de tout un enseignement qui a fait depuis des siècles l'objet d'études et d'une recherche à la fois populaire et intellectuellement très raffinée, en même temps qu'il façonnait, produisait, engendrait le peuple juif lui-même et des communautés comme réservoir d'intelligence. » La question du mythe est l'un des centres de votre pensée, Henri Atlan. Pourquoi ?
Oh ben, c'est pas seulement de ma pensée, elle est très largement exprimée, en particulier par exemple par les anthropologues qui ont reconnu depuis longtemps déjà que les mythes des populations autrefois caractérisées de primitives, parce que justement elles n'étaient pas monothéistes et évidemment pas chrétiennes, en réalité étaient nourries de mythes. Il n'y a pratiquement pas de population qui n'ait pas ces mythes d'origine, c'est-à-dire qui se transmet par tradition eh bien, une histoire de ses origines, en même temps d'ailleurs que les origines de l'univers, sous des formes différentes, avec des mots différents évidemment, etc. Eh bien aussi, le peuple juif a ses mythes d'origine, et ces mythes d'origine, c'est essentiellement la Bible. Enfin, la Bible hébraïque, ce qu'on appelle, si vous voulez, l'Ancien Testament, auquel s'oppose le Nouveau Testament, qui lui est le christianisme précisément. Mais il se trouve que l'histoire du judaïsme ne s'arrête pas avec la Bible et qu'elle est renouvelée absolument par ce qui constitue la Torah orale, si vous voulez. Autrement, la Bible est considérée comme une Torah écrite, mais renouvelée par les écoles talmudiques, précisément, dans lesquelles les maîtres et les élèves discutaient à propos des différents commandements de la loi mosaïque. Et ça constituait un renouvellement radical, absolument, qui est devenu encore plus radical après la destruction du deuxième temple de Jérusalem, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans, et le développement donc, de ce qu'on a appelé à ce moment-là la Torah orale, qui était orale, mais qui a été mise par écrit quelques siècles après.
Et qui constitue le Talmud, justement.
Qui constitue le Talmud, mais aussi tous les commentaires rabbiniques du Midrash et de la Kabbale aussi.
Vous avez parlé de mythe de la création, et justement, dans votre livre, Pour un athéisme éclairé, vous abordez un mythe biblique, peut-être le mythe par excellence, celui de la création du monde, à propos de laquelle vous dites, apportez plusieurs commentaires. Tout d'abord, quelle est la place de ce mythe dans la construction générale du texte biblique ? Vous parlez d'un commencement énigmatique, et peut-être peut-on commencer justement par le problème que pose la traduction, les traductions de ce commencement, Henri Atlan. Et là, je trouve que le commentaire de Rashi, que vous citez d'ailleurs, trouve une place éminente.
Oui, en effet. Alors, c'est un commencement énigmatique qui n'apparaît pratiquement, si vous voulez, que dans la lecture en hébreu du premier chapitre de la Genèse. D'ailleurs, le mot « Genèse » est déjà une traduction au grec, si vous voulez, du mot hébreu « Bereshit », qu'on traduit habituellement par « au commencement ». Et la traduction habituelle, c'est « au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre », etc. Or, il se trouve que ce mot « Bereshit » a un statut tout à fait particulier dans la Bible, en ce que c'est un apax, c'est-à-dire c'est un mot qui n'existe nulle part ailleurs sous cette forme-là, qui ne précise pas commencement de quoi il s'agit. Ce qu'on appelle en hébreu l'état construit, il faut que commencement, mais de quelque chose. Alors effectivement, on le trouve ailleurs dans la Bible, mais avec cette forme-là de commencement de quelque chose. Commencement comme ça, de tout, ça n'existe que là. Et là, effectivement, ça a été remarqué par le grand commentateur Rashi que ça pose un problème. Alors lui a proposé des solutions pour résoudre ce problème-là, bon, qui sont des solutions qui transforment en réalité le mot « lubam » en hébreu. Par exemple, il imagine de quelque chose, au commencement de quelque chose. Et ce quelque chose, alors pour lui, ça peut être la Torah, ça peut être Israël. Bon, certains après ont considéré que c'était au commencement du monde. Évidemment, Dieu a créé les cieux et la terre, donc ça peut se comprendre comme ça. Mais même Rashi n'était pas satisfait par ça, parce qu'il savait bien que le texte lui-même ne disait pas de quoi. Alors, pour dire de quoi, alors il propose un certain nombre d'hypothèses, là, pas inutiles cette fois-ci, et il en arrive à une transposition qui consiste à modifier véritablement le mot « Bereshit » en le traduisant non pas par « commencement », puisqu'on ne sait pas de quoi, donc il le transforme sa forme grammaticale de telle sorte que ça devienne au commencement de toute la suite, c'est-à-dire au commencement de ce que Dieu a créé, etc., etc. Alors, il a dit que la lumière soit et la lumière soit. Ça, c'est l'apport de Rashi à ce...
C'est comme si c'était écrit Bereshit Bero.
Absolument.
Au commencement...
Du fait de créer.
Du fait de créer le ciel et la terre, alors que les cieux et la terre, à ce moment-là, ne sont pas créés.
Oui.
C'est au commencement de tout.
Oui. Oui, c'est comme ça que c'est compris d'habitude.
Oui.
Seulement pour le lire comme ça, il faut modifier le texte quand même.
Ah oui.
Et c'est ce que fait Rashi.
Mmh.
Bon, ça, d'habitude, ça gêne pas trop, parce que très souvent, les commentateurs, surtout du Midrash, ils commencent par dire que c'est un verset difficile et qu'ils demandent qu'on l'explique.
Oui, d'Archénie.
D'Archénie, exactement.
Mmh. Henri Atlan, à côté du commentaire de Rashi que vous venez de nous expliquer, il existe un autre commentaire étonnant proposé par le Zohar. Ce texte fondamental de la Kabbale. Que nous dit ce texte?
Le Zohar, qui fait partie des livres fondamentaux de la Kabbale, et on a tort, entre parenthèses, considérer la Kabbale comme une œuvre mystique. Bon, ça, je sais que ça fait partie de ce qu'on appelle la mystique juive. Un certain nombre de spécialistes français et francophones qui ont parlé de la Kabbale ont le regretté, Charles Mopsik, par exemple. On regrettait en effet qu'on mette ça parmi les écrits mystiques au lieu de les mettre parmi des œuvres philosophiques, ce qui devrait en effet être fait. Bon, alors il se trouve qu'un de ces livres principaux, qu'on appelle le Zohar, qui a été écrit probablement au XIIIe siècle, comme ça, mais que la légende ou la tradition attribue à un des grands maîtres du Talmud, donc du IIe siècle à peu près, si je ne me trompe pas. Ouais. Bon, et là, ce commentaire, tout à coup, un commentaire du premier chapitre de la Genèse. Bon, d'abord, qui observe ce qui est assez évident pour tout le monde, que dans ce premier chapitre de la Genèse, le seul nom traduit en français... Parmi la pluralité des noms bibliques, si vous voulez, qui sont traduits en français, mais qui sont tous traduits par le même mot Dieu, quoi, c'est-à-dire Elohim, c'est uniquement ce nom-là, parmi les autres possibles, qui est utilisé dans ce premier chapitre. En particulier, le nom le plus fameux de tous, qui est le tétragramme, n'est pas là. Dans la Bible,
il va venir par la suite.
Il vient au deuxième chapitre. Quoi.
Oui.
Mais tout le premier chapitre, qui décrit tout le phénomène des 6 et 7 jours, si vous voulez, ce qu'on appelle la création, etc. Or, d'abord, il ne s'agit pas de création dans la totalité en question. En hébreu, tout ce récit-là n'est pas dit en hébreu qui correspondrait à un récit de la création. Ça s'appelle Maaseh Bereshit, c'est-à-dire l'œuvre du commencement. L'œuvre, pas la création. Le Zohar nous explique le premier verset d'une façon évidemment qui est stupéfiante, justement quand on est nourri de traditions monothéistes, qui est que tout à coup, il nous dit qu'il faut lire le premier verset comme il est écrit en hébreu, en suivant la suite des noms. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit que c'est Elohim, c'est-à-dire Dieu, qui a créé les cieux et la terre, mais il est écrit que c'est Bereshit qui a créé Elohim, qui a créé Dieu, avec les cieux et avec la terre.
C'est-à-dire que Bereshit est un nom propre.
Alors Bereshit est comme un nom propre.
On ne sait pas qui c'est.
On ne sait pas.
Mais c'est lui qui crée Elohim.
C'est lui le sujet de à créer. Bon, ça c'est clair.
Oui.
Bon, et alors évidemment, après, il y a tout un tas de développements dans le Zohar qui essayent de dire, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce mot Bereshit, tout seul. Ça c'est vrai, s'il est tout seul, il ne dit pas de quoi, mais qu'est-ce que ça, comme sujet de à créer, qu'est-ce que ça désigne?
Voilà, il y a une entité énigmatique qui s'appelle Bereshit, qui va créer Elohim avec les cieux et la terre, et vous soulignez la valse des verbes utilisés dans cette création du monde, telle que c'est raconté, entre le verbe créer, bara, le verbe former, yatsar, et le verbe faire, à ça que vous repérez aussi dans le verset 7 du chapitre 45 d'Isaïe, je cite, « Je forme la lumière et crée l'obscurité, fais la paix et crée le mal, je suis le tétragramme qui fait tout cela.
Ouais. »
Donc c'est intéressant parce que là, c'est pas Elohim, c'est un autre nom de Dieu qui est le tétragramme, mais on le verra dans la deuxième partie. Verset qui, par intertextualité, nous fait comprendre, selon le Midrash que vous citez, que la création, c'est l'introduction du mal à côté du bien. Comment comprendre ce Midrash, Henri Atlan?
Ah bon, alors là, d'abord, il faut admettre que c'est un verset important du grand prophète Isaïe qui dit qu'il est celui qui forme la lumière et crée l'obscurité, fait la paix et crée le mal. C'est-à-dire que l'obscurité est opposée à la lumière, le mal est opposé à la paix. Mais tout ça, c'est créé. Et ça n'est pas fait, ça n'est pas formé, etc. C'est créé, autrement dit, le verbe créer. parable ou livreau qu'on traduit par créer comporte déjà en lui-même une ambivalence, si vous voulez, du bien et du mal. Bon, c'est ça qui apparaît là. Et d'ailleurs, très souvent, ce même verset d'Isaïe est cité, mais dans les communautés, il est un petit peu modifié. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à la fin « qui fait la paix et crée le mal », il est transformé en « qui fait la paix et crée tout ».
C'est-à-dire qu'en fait, on a peur de dire qu'il crée le mal. On a l'impression que, étant donné que dans toute la création, dès la création de la lumière, où le texte dit « Dieu dit que c'était bien », et puis cette notion de bien est répétée en permanence dans la création, on essaye d'éviter l'introduction du mal, et pourtant, le verbe « créer », c'est la création du mal à côté du bien, comme la création de l'obscurité à côté de la lumière.
Oui, mais attendez, mais dans tout le récit, dans tout le premier chapitre, eh bien, le verbe « créer » n'est utilisé que deux fois.
Oui.
Tout ce qui apparaît, dont on dit « voilà, ça a été créé tel jour et l'autre tel jour », etc., on ne dit pas que ça a été créé, on dit « ça a été fait ».
Ça a été formé.
Voilà.
Mais l'essentiel de ce midrash que vous rapportez et que vous commentez, c'est qu'il y a dans la création quelque chose du mal qui est apporté.
Dans ce qui est appelé en hébreu « création ».
Nous sommes en train d'entendre un extrait de l'oratorio de Haydn intitulé « La création » où le texte, ici en allemand, utilise le vocable « Gott » pour nommer ce que l'on appelle Dieu en Occident chrétien et qui est « Elohim » dans le texte hébraïque. Vous insistez, Henri Atlan, tout au long de la seconde partie et la troisième partie de votre ouvrage sur la spécificité du texte biblique qui comporte non pas un nom de Dieu, mais des noms différents qui n'ont pas tous la même valeur ni la même fonction. Vous proposez ce que vous appelez une déconstruction de Dieu, et vous le mettez entre guillemets, et c'est important. Qu'entendez-vous par cette déconstruction et que permet-elle de penser ?
Cette déconstruction, en réalité, fait suite à la construction de Dieu dans l'histoire, justement, des religions monothéistes. Et c'est cette construction-là qui aboutit, en effet, à la notion du Dieu personnel, créateur de l'univers, tout-puissant, esprit pur, non corporel, esprit pur, etc. Et qui est devenu l'hypothèse inutile, précisément. Mais avant de devenir l'hypothèse inutile, ben, il y a eu cette histoire. Maintenant, eh bien, on arrive à la conclusion que si on admet tout ce qu'on a vu avant, à savoir que d'abord, c'est devenu l'hypothèse inutile pour l'Occident qu'il avait créé en réalité. Et après, mais ce que c'est devenu dans les traductions des textes hébraïques, mais qui, du coup, ont modifié finalement la signification des noms hébreux utilisés. D'ailleurs, modification et traduction à l'origine, qui est la traduction en grec de la Septante, si vous voulez, au début. Où là, en effet, s'effectue déjà cette première modification avec cette première réduction de beaucoup de noms qui sont tous réduits en traduction à Theus, si vous voulez, ou Deus en latin. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on est tombé sur le fait que pour la tradition juive, eh bien, si on se reporte justement au texte biblique, c'est-à-dire aux origines, et sans regarder le Talmud, c'est là, pour le moment, si on se reporte au texte biblique, on observe qu'en hébreu, plusieurs noms très différents sont traduits tous systématiquement par Dieu uniquement. Alors ces noms, on a vu deux déjà, Elohim, le tétragramme évidemment, et puis par exemple Yah, qui est une diminution du tétragramme. Alors il y a Shaddai, qu'on traduit aussi par Dieu. Parfois on dit tout puissant, mais enfin en réalité Shaddai c'est un nom bon, qui veut dire suffisant, Dai, etc. Bon.
Qu'est-ce que vous déconstruisez justement ?
Eh bien le fait que tout ça ait été traduit finalement dans les traductions, pas toujours le même mot, Dieu.
Et donc la déconstruction, elle consiste à redonner à chacun des noms de Dieu,
sa
signification propre, sa spécificité.
Oui.
Et donc, on a vu, par exemple, pour la création, dans cette première partie, que la création, alors on ne sait pas si le sujet c'est Bereshit ou si c'est Elohim, mais en tout cas, Elohim, c'est un des noms de Dieu les plus, des noms de Dieu, entre guillemets, les plus importants.
Oui.
Comment vous l'expliquez, ce Elohim ?
La signification de chacun de ces noms, la signification propre.
Oui.
Elle se trouve exposée explicitement dans les textes de la Kabbale, où chacun de ces noms désigne ce qu'on appelle une sphira, c'est-à-dire une catégorie de la connaissance. Alors Elohim, ben, c'est une de ces catégories, qui est la catégorie de la force, de la puissance, etc. Puis il y en a d'autres, qui est elle, par exemple, qui veut dire aussi Dieu, en principe, dans les traductions, en tout cas c'est traduit comme ça, mais qui a un tout autre nom. Et qui est probablement d'ailleurs le nom d'une idole ancienne dans les populations cananéennes. Et elle, alors là au contraire, est associée dans les explications kabbalistes, au contraire de Elohim, c'est-à-dire au chassid, c'est-à-dire à la grâce ou la charité aussi, etc. Comme ça pour tous les autres noms. Alors le tétragramme, évidemment, a un caractère particulier, parce qu'il a à la fois une signification particulière, qui est celle qu'on appelle Rachamim, qui est une espèce de synthèse des dieux, des deux, si vous voulez, donc de la grâce et de la charité d'une part, et de la rigueur, de la justice de l'autre. Mais en même temps, ce même tétragramme a une signification générique, en ce sens qu'il décrit la totalité de toutes ces catégories-là. Après, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, aussi Adonai écrit en toutes lettres. Tout ça est complété, si on peut dire, par le Talmud, qui non seulement utilise ces différents noms, mais en plus a trouvé utile d'en ajouter des noms qui ne sont pas dans la Bible et qui sont proposés et ajoutés directement comme étant des évidences par des commentaires talmudiques, comme par exemple Akadosh Baruch Hu, qu'on traduit le Saint béni soit-il, bon, traduction plus que contestable, en tout cas c'est une expression là qui est utilisée par le Talmud en plus de tous les autres. Et d'autres expressions comme Ribono Shel Olam, qui veut dire le maître du monde, aussi une expression curieuse qui est Hamakom, qui veut dire le lieu, qui aussi désigne tout ça. Alors tous ces noms-là sont associés plus ou moins avec l'origine de tout, si vous voulez, que les kabbalistes après appellent Ensof, c'est-à-dire infini, sur lequel, d'ailleurs, on ne peut rien dire.
Ce qui est important, si vous voulez, de ce que je comprends, c'est que il faut déjà peut-être partir de la question du nom et du nom propre, et vous insistez sur le fait que la linguistique du nom propre et la relation qui se joue est une relation qui se joue entre le signifiant et le signifié. Je crois qu'il faut commencer par expliquer cette différence.
Oui, absolument.
Différence.
Bon, ça, c'est à l'origine d'un malentendu fondamental, qui parle de tous ces noms, et en particulier évidemment du tétragramme, comme étant les noms, et le tétragramme comme étant le nom de Dieu, le plus important. Mais le nom de Dieu. Et c'est ça qui pose un problème. Parce que, en effet, une analyse linguistique assez fine d'un dit type de Wittgenstein qui s'appelle Kripke, a relevé le fait que tous les noms propres, y compris d'individus, y compris de choses, posent un problème. Dans la mesure où le nom propre désigne quelque chose ou quelqu'un qui est censé être connu, indépendamment du nom. Et le nom il vient là comme étant signifiant, pour la chose étant elle-même signifiée. Quand on parle de nom de Dieu, ben, le signifiant et le signifié, c'est la même chose. Puisque c'est en principe par ce nom-là que la chose ou l'être ou ce qu'on voudra est nommée. Et si on se reporte maintenant au texte biblique, y compris dans des passages très importants, comme ce 1 des commandements qui dit « Tu n'évoqueras pas le nom de Dieu en vain ». Bon, là aussi, c'est complètement transformé, parce que ça n'est pas le nom de Dieu. Parce que c'est quoi Dieu dont il ne faut pas nommer, vous comprenez? Donc, alors là, on est obligé d'observer la même observation que ce Kripke avait fait à propos des noms propres en général. Et c'est la raison pourquoi en hébreu, quand on dit ça, normalement, on doit dire « tu ne dois pas évoquer le nom tétragramme ». Et ça n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom tétragramme, tout seul.
Oui.
Voilà, toute l'idée qui revient alors, vraiment très en détail dans le texte kabbaliste sur la puissance des noms. En tant que nom, en général.
D'une certaine manière, ce que vous voulez dire, c'est que, étant donné que les traductions, depuis le moment où on a commencé à traduire les textes de la Bible en français ou dans d'autres langues, ça a rabattu la complexité du texte biblique en hébreu sur une simplicité qui ne donne plus la richesse de ce texte. Oui. Dans la mesure où on aurait, on va dire, une dizaine ou une quinzaine de noms différents du nom de Dieu, qui ont été tous traduits plus ou moins par le nom Dieu,
oui,
parfois par le nom éternel. Et en fait, c'est que l'on a perdu la finesse de la lecture de ce texte parce que on a remplacé
le nom Dieu.
Le mot Dieu, oui, est devenu une sorte de coquille, oui, générique,
oui,
pour parler de ces différents noms. Alors, ce qui est intéressant, ce qui me semble intéressant dans tous vos développements sur les noms, c'est que tout à coup, de manière tout à fait inattendue et impromptue, si on peut dire, vous revenez au mythe du golem et à l'intelligence artificielle. Et je me suis demandé, mais quel lien entre les noms de Dieu ou le nom de Dieu, le golem et l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui les relie pour le meilleur ou pour le pire, si on peut dire?
Il y a aussi une espèce de résumé que j'ai fait dans ce livre de ce que j'appelais la saga de l'intelligence artificielle, qui est en effet une histoire qui a commencé il y a bien longtemps, qui a commencé non pas maintenant, mais déjà à peu près dans les années 50, au moment de la découverte et de la fabrication des premiers ordinateurs. Et un de ces premiers ordinateurs a été fabriqué à l'Institut Weizmann en Israël, qui est un institut des sciences. Les physiciens ont fabriqué parmi les premiers ordinateurs. Et puis à ce moment-là, alors ils étaient tous très impressionnés, évidemment, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler d'intelligence artificielle, en disant bon, que des machines comme celle-là, alors pas celle-là, mais ceux qui vont être développés après cela, des machines comme celle-là, arriveront à égaler et peut-être dépasser l'intelligence humaine. Et donc, c'est ça qu'ils ont commencé à appeler intelligence artificielle, avec une discussion qui a commencé à cette époque et continue actuellement sur est-ce que cette intelligence artificielle sera capable d'égaler ou de même dépasser l'intelligence humaine. Bon, là, il y a eu deux sortes qu'on a appelées l'intelligence artificielle forte et puis la faible, qui est avec des partisans différents. Ceux qui étaient pour la forte disaient oui, oui, les futures machines arriveront à dépasser, à comprendre d'abord ce qu'elles font et ensuite la dépasser, l'intelligence humaine. Puis la faible disait non, pourront jamais. Alors il se trouve que moi j'ai un petit peu participé quand même à ces tout premiers débuts dans mon tout premier livre dont on ne parle pas parce que c'est un livre de mathématiques en réalité qui est sur la théorie de l'information en biologie. Et là où j'avais déjà mentionné les premières découvertes qui ont abouti après toute cette époque au programme actuel d'intelligence artificielle. Et bon, j'avais mentionné ça. Et moi, à cette époque-là, je faisais partie donc des partisans de l'intelligence artificielle faible. C'est-à-dire qui disaient, non, ça, on n'arrivera pas.
Mais alors, ma question, c'est quel est le rapport avec les noms de Dieu?
Et bien justement, c'est que déjà, dès la création d'un des premiers ordinateurs à l'Institut Weizmann en Israël, eh bien, à ce moment-là...
Le nom qu'on lui a donné, c'était le golem.
On l'a appelé golem. Alors, pourquoi? C'est ça. Et ça, c'est sous l'influence, justement, d'un grand spécialiste de la Kabbale qui enseignait à l'Université de Jérusalem, qui enseignait la Kabbale, justement.
Oui, Gershom Scholem.
Gershom Scholem. Qui, lui, tout simplement, était au courant d'une vieille tradition juive qui avait imaginé la fabrication d'un homme artificiel qu'on trouve déjà dans le Talmud. et qui a été repris génération après génération jusqu'à sa dernière forme, qui était le maral de Prague au XVIe siècle. Et bon, le maral de Prague a donné lieu à toute une littérature, etc., où on voit d'ailleurs là l'importance des mythes, si vous voulez, comme source d'inspiration éventuellement. Et donc, ce spécialiste de Kabbale a proposé d'appeler cette machine Golem. Et donc, il a fait un discours célèbre au moment de l'inauguration de cette machine-là, dans lequel il raconte justement la légende du maral de Prague qui a fait un golem, qui après s'est terminé assez mal, parce que, comme vous le savez, eh bien, à un moment donné, le golem s'est révolté en quelque sorte.
Donc c'était un automate qui s'est révolté.
Oui, c'était un homme artificiel, c'est plus qu'un automate, c'était un homme artificiel qui avait presque tous les attributs humains. Presque, parce qu'il y a eu toute une série de golems d'avant lui, enfin d'hommes artificiels, y compris dans Talmud, qui ne parlaient pas. Mais après, un golem parfait devait parler, quoi. Et c'est vrai que l'ordinateur parle d'une certaine façon.
Oui.
Donc il a décidé d'appeler cette machine golem. Et il a prédit dans son discours que peut-être cette machine-là ne serait pas toujours bienveillante.
C'est-à-dire de la même façon que ça s'est mal terminé avec le golem, où on a été obligé de lui enlever
le nom du tétragramme,
qui le faisait fonctionner. Peut-être qu'on va arriver à un moment où il faudra enlever les puces qui font fonctionner les ordinateurs.
Ça, c'est... Alors, il y a un film célèbre, là, qui est 2001, où c'est ça qui se passe. Où l'homme artificiel, qui était vraiment un homme artificiel, imaginé par l'auteur du film, qui était Kubrick, vous voyez. Eh bien, c'est des espèces d'êtres qui ressemblent à des singes, mais à des singes très développés, etc., qui parlent, qui font marcher toutes les machines, etc., et puis qui se révoltent. Et à ce moment-là, eh bien, il est débranché.
Merci Henri Atlan pour ces deux semaines de conversations passionnantes. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé, « Pour un athéisme éclairé, l'hypothèse inutile, des lumières au monde hébraïque ». C'est riche, profond et novateur, et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci encore Henri Atlan.
Ben c'est moi qui vous remercie, Marc-Alain Waknin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Anthony Thomasson, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.